Bonjour à tous, nous sommes 6CM2 de l'école Jeanne d'Arc de Chamonix et aujourd'hui, nous souhaitons vous faire part de notre voyage de presse à Valorcine entre Bérard et Le Buet que nous avons réalisé en avril dernier. Tout d'abord, Lucille, qui comme moi habite à Valorcine, s'est intéressée au fameux Mont Blanc des Dames. Mais alors Lucille, est-ce que cette montagne est réellement que pour les dames ?
Non, je vais tout vous expliquer grâce à Xavier Dunant que j'ai rencontré et interviewé à Valorcine. Bonjour Xavier, alors pourquoi le Buet est-il appelé le Mont Blanc des Dames ?
Waouh, ça c'est la question phare. Alors cette montagne, elle porte plusieurs noms. Hein, je pense que tu sais qu'elle s'appelle le Buet aujourd'hui, mais pendant longtemps elle s'est appelée la Mortine. Et puis, aujourd'hui, elle a le surnom de Mont Blanc des Dames. Alors il faut quand même bien penser qu'il n'y a pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Mont Blanc des Messieurs, ça n'existe pas. Il y en a qui disent « Ah oui, c'est le Mont Blanc des Dames parce que c'est plus petit, c'est moins haut que le Mont Blanc, tout ça ». Mais il n'y a pas de Mont Blanc des Messieurs. Donc il y a une spécificité, c'est le Mont Blanc des Dames. En fait, en 1786, 1787 peut-être, quand Horace Bénédicte de Saussure va monter au sommet du Mont Blanc, il y a une expédition féminine qui monte au sommet de ce Mont Buet. Et ce Mont Buet, il est déjà gravi depuis de nombreuses années. Mais c'est les frères de Luc qui, en 1770, vont faire le premier récit et des observations scientifiques au sommet de ce sommet. Alors on peut dire que peut-être que c'est la cordée féminine qui a fait que cette montagne s'est appelée le Mont Blanc des Dames, ou alors peut-être que c'est simplement par romantisme qu'en pensant à toutes ces dames, les gens ont dit « Mais oui, c'est le Mont Blanc des Dames, parce que c'est joli ».
Qui a fait la première ascension du Mont Blanc des Dames ?
Alors, je viens de parler des frères de Luc. C'est vrai qu'en 1770, ils font une ascension depuis le village de Sixt, qui se trouve de l'autre côté par rapport à Valorcine. Et puis, on a le chantre de la cathédrale de Genève. Alors, le chantre, c'est celui qui chante à la cathédrale de Genève, qui s'appelle Marc-Théodore Bourri. Et lui, suite au récit des frères de Luc, il va chercher à gravir ce sommet depuis Valorcine. Alors, il cherche des guides. Ils cherchent à savoir où il est, ce sommet, puisque les frères de Luc l'ont appelé le Mont Buet. Et les gens de Valorcine lui disent « Mais on ne connaît pas de Mont Buet, nous on ne sait pas ce que c'est que le Mont Buet. Mais si vous voulez, on peut vous emmener sur la plus haute montagne de Valorcine. » Alors il l'emmène sur une montagne qui s'appelle la Mortine. Et à ce moment-là, il se dit « Ben oui, c'est le même sommet. » Parce qu'il y a un super panorama sur et le lac Léman, et l'ensemble du massif du Mont Blanc, et tout un tas de chaînes de montagnes. Alors, je parle des premières ascensions qui ont été des récits, mais sans aucun doute, les gens d'ici étaient déjà montés au sommet de cette montagne puisqu'ils la connaissaient. Donc c'est pas vraiment la première ascension, mais c'est la première ascension faite par des touristes ou des aristocrates.
Quand a été faite la première ascension depuis Valorcine ?
Alors c'est en 1775, hein, je parlais de Marc-Théodore Bourri. Donc lui, il monte et puis il va laisser des traces parce qu'il y a encore des endroits aujourd'hui qui s'appelle la table au chantre. Alors la table au chantre, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Donc je disais, un chantre, c'est celui qui chante dans une cathédrale. Et puis, en fait, c'est un endroit qui a été parcouru à cette époque-là où Bourri a dit « Mais on peut s'asseoir, il y a des fauteuils et on est bien assis, on peut même avoir un dossier ». Donc ce lieu-là, ben, vous le verrez parce qu'en parlant de géologie, vous allez voir qu'il y a différents niveaux de roches peut-être. Et puis si un jour vous montez, vous verrez qu'il y a différentes roches, différentes couleurs et qu'on peut trouver des endroits effectivement pour s'asseoir sur des belles pierres plates. Et il y a un endroit qui s'appelle donc la table au chantre encore aujourd'hui. Donc 1775, c'est cette date-là que Marc-Théodore Bourri trouve ce chemin ou en tout cas l'explique et le raconte pour monter depuis Valorcine.
Quelle est l'altitude du sommet du Mont Blanc des Dames ?
Alors ça, c'était un peu pour ça qu'on a gravi le sommet au départ. C'est pour connaître son altitude et pour faire des expériences. Un peu comme pour aller au sommet du Mont Blanc. Alors pour calculer l'altitude, il a fallu faire chauffer de l'eau. Et puis suivant la température à laquelle l'eau va bouillir, on peut calculer l'altitude. Alors avec plusieurs versions, donc on a souvent parlé de 3100 mètres, et puis des fois sur les cartes on trouve 3096, ça va dépendre des échelles de calcul qu'on utilise tout simplement. Donc on est au-dessus de 3000 mètres, vers les 3100 mètres à peu près, et puis voilà, ce qui fait que c'est à une époque aussi, au XVIIIe siècle, On a encore de la glace à traverser, on a beaucoup de neige là-haut, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Où se situe le Mont Blanc des Dames ?
Alors, il se situe ici entre cette vallée de Valorcine qui continue vers la vallée du Trien, donc on parle de la vallée de l'eau noire si on parle des cours d'eau. Et puis, de l'autre côté, on a la vallée de Sixtefer à cheval. On est dans la vallée du Giffre. Donc on est entre la vallée du Giffre et puis entre cette vallée de l'eau noire et du Trien. Donc entre différentes structures géographiques ou géologiques.
Comment fait-on l'ascension et combien de temps dure-t-elle ?
Alors si on part depuis le hameau du Buet, encore un nom qui a été installé depuis qu'on a le sommet, hein. C'est comme si on partait du hameau du Mont-Blanc pour aller au sommet du Mont-Blanc. Là on part du hameau du Buet, où l'hôtel du Buet a été installé, où il y a aussi un arrêt de train qui s'appelle le Buet. Et vous comptez à peu près 6 heures pour monter. C'est pas mal 6 heures. Alors pour un randonneur, c'est déjà important. Seulement c'est 6 heures pour monter et c'est des fois aussi 6 heures pour descendre. Entre la fatigue qu'on a eue pour y monter et puis le temps, la distance. Ça c'est pour monter par la voie la plus facile, qui est la voie qui passe par la vallée de Bérard et le refuge de la Pierre à Bérard.
Quelle voie peut-on prendre pour monter au sommet ?
Donc je viens de parler de la vallée de Bérard, c'est la voie normale. Et c'est vrai que quand c'est 6 heures de marche, on se dit ben, je vais peut-être faire une étape. Alors dans ce cadre-là, on peut s'arrêter au refuge de la Pierre à Bérard. Et puis le lendemain, on va gravir en direction du col de Saint-Lanton et gravir le passage de la Table au Chantre pour aller au sommet du Buet. Et puis sinon, il y a trois arêtes principales qui mènent au Buet. On en a une qui s'appelle l'arête des Èves. C'est par là qu'on arrive quand on vient depuis Sixte. On en a une autre qui s'appelle l'arête des Cristaux. Et alors celle-ci, elle est un petit peu plus ardue à grimper. Et puis encore l'arête de la Mortine, où on peut arriver depuis le col de l'Échaud et traverser sur le sommet du Buet. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs accès. Et puis si on veut s'arrêter dans des refuges, on peut soit s'arrêter sur le refuge du Greneron qui est au-dessus de Sixte, soit donc le refuge de la Pierre à Bérard, où on peut aussi venir depuis Moët d'Anterne et faire toute une longue traversée qui permet de rejoindre le Buet. Donc beaucoup de parcours variés, ce qui fait qu'on peut monter par un côté, redescendre par l'autre et faire de belles aventures au Buet.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci Xavier pour toutes ces informations sur l'histoire de ce sommet. Maintenant, Valentine va nous donner davantage de détails sur la géologie de cette montagne.
Eh oui, j'ai eu la chance de rencontrer le géomorphologue Ludovic Ravanel, à qui j'ai posé quelques questions. J'ai commencé par lui demander l'altitude du Buet.
Le Buet, qu'on appelle également Mont Blanc des Dames, est à 3096 ou 98 mètres d'altitude. Ça dépend comment on le mesure et quand on le mesure. Et l'altitude variait un petit peu par le passé, puisqu'il y avait de la neige. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige, donc on doit être autour de 3096 mètres.
Quand le Buet s'est-il formé ?
Alors le Buet appartient à une grande chaîne de montagnes qu'on appelle les Alpes. Et les Alpes se sont formées par collision de deux continents. Alors le Buet, il est un petit peu particulier, il n'est pas tout à fait dans le massif des Aiguilles Rouges, mais on peut quand même le raccorder au massif des Aiguilles Rouges. Le Buet est constitué essentiellement de roches que l'on appelle des roches sédimentaires. Elles ont été formées au fond d'un océan. Il s'agit de calcaires... des calcaires avec de l'argile, donc des calcaires argileux, ainsi que des schistes. Et on peut trouver quelques cristaux un petit peu spéciaux dans ces terrains-là, y compris dans les versants du Buet.
Quelle sorte de cristaux trouve-t-on au Buet ?
Alors, c'est des cristaux, on a quelques cristaux de quartz.
Merci Ludo d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, nous allons redescendre en altitude pour nous intéresser à la cascade de Bérard avec Sarah et Billy. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici la Waterfall de Coldplay.
Until the music up, come on away.
Bonjour, je m'appelle Sarah. L'été, je vais très souvent me promener au pied de la cascade de Bérard avec mes parents. C'est pour cela que je me suis intéressée. Grâce au guide du patrimoine Valor Saint-Xavier du Nant, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions.
Alors, la cascade de Bérard, c'est une cascade qui existe depuis fort longtemps, puisque c'est la nature qui l'a faite. Et puis, on ne l'a pas vraiment découvert, on l'a observé. Puis un jour, on s'est dit que ce serait un intérêt particulier pour les voyageurs. Alors aujourd'hui, nous, on aime bien les cascades, mais on aime bien les sommets, on aime bien les beaux points de vue. Sauf que au XVIIIe siècle, quand on a les premières personnes qui viennent découvrir nos vallées, on veut dire les premiers touristes, eh ben, ils adorent les glaciers et puis ils adorent les cascades. On est dans une époque qui commence, qui s'appelle le romantisme. Et alors ça, c'est un truc extraordinaire pour eux. On peut dire qu'en général, c'est des gens qui sont citadins, qui habitent dans la ville et qui voyagent sur toute l'Europe. Mais voilà, en tout cas, la cascade, elle n'a pas été découverte. Et puis après, peut-être, on s'est mis en place de faire une passerelle, d'essayer de la voir. Parce que cette cascade-là, elle n'était pas visible du chemin. Si vous y allez, vous verrez, il y a toute une passerelle métallique qui permet d'y aller et de la voir. Sinon, depuis le chemin, on peut que la deviner. La grande cascade qui était très observée à Valorcine avant, c'était la cascade de Barberine.
Combien de personnes viennent visiter la cascade de Bérard en été ?
Oula ! Beaucoup, beaucoup. Tu sais, il n'y a pas un petit compteur qui dit il y a tant de personnes qui passent. Mais je ne sais pas, sur tout l'été, s'il y a 100 000 personnes, 50 000, je ne sais pas. C'est un endroit qui est facile parce que on peut poser sa voiture et puis en un quart d'heure, on est vers la cascade. Et puis, c'est un endroit où on ne peut pas être touché par cette cascade. Quelque part, il y a toujours quelque chose qui nous fait une étincelle, quoi. On voit une cascade, on voit la force de l'eau, on voit quelque chose de magique. Et donc, ça touche au plus profond du cœur.
Quelles sont les activités à faire à la cascade de Bérard en été ? Des randonnées, visiter la grotte du Faux-Monnayeur. Combien de randonnées à faire à la cascade de Bérard ? 6 randonnées à faire. Lesquelles ? Col de Salenton. Mont Buet, refuge de l'Oriaz, pierre à Bérard, grotte à Farinée, la pierre à Bérard.
Merci Xavier, grâce à toi, je ne verrai plus mes balades à la cascade de la même manière. Et je raconterai tout à ma petite sœur, elle va adorer. Mais j'imagine que cette cascade est aussi très belle en hiver. Billy, tu pourrais nous en dire plus ?
Bien sûr Sarah, maintenant je peux te raconter l'histoire de l'origine de la cascade en hiver. Parce que j'ai interviewé Ludovic Ravanet, qui fait aussi beaucoup de cascades de glace. J'ai commencé par lui demander à quelle température se transforme l'eau en glace.
Alors le passage d'eau liquide à l'eau solide, c'est-à-dire en glace, se fait à 0 degré. Et effectivement, on a des cascades de glace qui se forment. Alors il faut quand même un petit moment, il faut un certain nombre de jours de froid avec des températures très négatives pour qu'ensuite il y ait suffisamment de glace pour pouvoir grimper dessus.
En hiver, peut-on grimper sur la cascade quand elle est gelée ?
Exactement, on grimpe sur cette cascade de glace avec des crampons, des piolets, et si on grimpe trop tôt, on casse la glace, et après c'est plus difficile de former la glace, donc on attend un petit peu.
Avec quel matériel doit-on avoir pour grimper la cascade ?
Alors le matériel nécessaire pour faire de l'escalade sur glace, c'est des piolets qu'on appelle des piolets de traction, sur lesquels on peut tirer, on peut tracter, des crampons, et puis bien sûr, il faut tout le matériel de sécurité.
Combien de mètres fait la cascade en hauteur et en largeur ?
Alors, en largeur, on a plusieurs dizaines de mètres. Et au maximum, en hauteur, ça fait 15 à 20 mètres.
Où part l'eau de la cascade après ?
L'eau liquide retourne dans le torrent de Bérard, qui ensuite alimente l'eau noire qui se jette dans le Rhône.
Comment s'appelle la première personne qui a grimpé la cascade ?
Alors, on peut dire même qui est-ce qui a créé la cascade de glace. Il s'agit de Louis Laurent, que l'on appelle Louison, qui est un guide de Valorcine, qui appartient à la compagnie des guides de Chamonix.
Vous pensez que la cascade existerait encore dans 20 ans avec le changement du climat ?
La période durant laquelle on va pouvoir pratiquer sera certainement plus courte. Au lieu de faire ça pendant 2 ou 3 mois, on fera peut-être ça pendant seulement 1 mois ou 1 mois et demi.
Merci. Merci, ça me donne bien envie d'aller la voir en hiver et pourquoi pas la grimper avec un guide. Pour terminer, les deux Casper de la classe vont vous parler de ce qui se cache derrière la cascade, un endroit mystérieux.
Je vais vous parler d'une grotte mystérieuse, la grotte Farinée. C'est encore Ludo qui a répondu à mes questions sur la formation géologique de cette grotte. J'ai commencé par lui demander où se situe la grotte.
La grotte Farinée se situe en rive gauche du vallon de Bérard, pas loin de la cascade du même nom.
Et c'est qui l'a découverte ?
Alors, la découverte en tant que telle, on ne sait pas exactement qui c'est. C'est certainement des gens du pays, en tout cas Farinet, y a passé du temps.
Et comment on y accède ?
On y accède aujourd'hui par un sentier aménagé depuis la buvette. On passe derrière la buvette, ensuite il y a un système de marches, de passerelles, etc. Et on redescend en direction de la grotte et il y a un petit escalier qui descend dans la grotte.
Est la grotte grande ?
La grotte, elle est assez grande, elle fait une bonne dizaine de mètres de large, de long et de hauteur. Et cette grotte, en fait, c'est une grotte qui s'est formée par un énorme éboulement, c'est-à-dire que des roches, des énormes blocs sont tombés de la montagne, se sont enchevêtrés les uns les autres pour former une grotte qui finalement n'a pas trop de lien vers l'extérieur. Il y a seulement 2 gros trous par lesquels la neige passe l'hiver évidemment. Mais on est quand même protégé quand on est à l'intérieur. On n'est pas trop de courant d'air et que ce soit habitable.
Merci Ludo. Mais mon copain Casper va nous donner plus de détails sur l'homme qui se cache derrière cette grotte. Un certain faux monnayeur.
Et oui, cette histoire passionnante de Monsieur Farinet m'a été racontée par Xavier Dunant.
Mais qui est ce personnage Farinet ? Hein, il est présenté aujourd'hui un peu comme un Robin des Bois qui vient faire de la fausse monnaie et qui offre ses pièces aux gens des villages qui sont plutôt pauvres. En réalité, c'est un vrai bandit de grand chemin, hein, avec un fusil, un couteau, enfin tout ce qu'on veut pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. Ce qui est particulier, parce qu'aujourd'hui on est à la frontière, il est à cheval entre toutes les frontières des pays qu'on a autour du Mont Blanc. C'est-à-dire que d'un côté on a l'Italie, la France et la Suisse. Donc lui il est né, on va dire, en Italie, après il s'est promené en France, et ensuite il est allé en Suisse. C'est une autre de tes questions ? Non ? Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas ces pays-là. On était tous dans des États de Savoie. C'était un grand pays qui s'appelait les États de Savoie.
Pourquoi il y habitait à la crotte ?
Alors comme c'est un bandit, il est recherché par les gendarmes. Et alors, je disais, il est né du côté de l'Italie, donc il est né dans le Val d'Aoste. Et déjà dans le Val d'Aoste, il était forgeron, il a fabriqué ses fausses pièces. Et puis, il était déjà recherché par les gendarmes. Donc il a bougé, il est allé un petit peu plus loin. Il est allé ici sur la partie de Valorcine, mais il est allé aussi dans le Val de Bagne, un petit peu plus loin dans le Valais, et puis à plusieurs endroits, et il était tout le temps recherché par les gendarmes. Il a quand même été plus de 3 fois en prison, et il s'est échappé 3 fois.
Comment est-ce qu'il mangeait sans se faire trouver par la police ?
Alors il avait des complices. En fait, il s'organisait pour avoir des gens qui l'aident, qui sans doute lui amène à manger, qui sans doute font aussi des travaux pour lui. Par exemple, on sait qu'il avait une machine spéciale pour faire les pièces, et cette machine, elle était transportée par le train, dans des grandes caisses, ou par les diligences, puisqu'on est avant qu'il y ait du train ici. Et donc, il fallait l'envoyer à quelqu'un à une adresse précise. Donc il avait des complices.
Alors ma prochaine question, c'est, tu viens un peu de répondre, comment s'organisait-il ?
Ben voilà, avec ses complices d'une part. Et puis, une autre chose que je t'ai pas dit, c'est que on n'était pas comme aujourd'hui, où si par exemple quelqu'un est recherché, c'est pas très compliqué de publier sa photo. Mais à l'époque, il n'y a pas de photo. Et on sait pas à quoi il ressemble, Farinet. S'il se met des fausses moustaches, on n'a pas dit qu'il était moustachu, alors on n'en sait rien. S'il se fait pousser la barbe, eh ben c'est pareil, on sait pas le reconnaître. Et puis, donc, il se promène à plusieurs endroits, mais personne ne sait que c'est lui, quoi. Il faut vraiment trouver sa fausse monnaie. Paraît-il qu'il était tellement fier de sa monnaie qu'il faisait des pièces de monnaie avec son effigie dessus. C'est-à-dire qu'il y avait sa représentation de lui dessus. Et en fait, il y avait tellement de pièces de monnaie différentes qu'on n'en faisait pas la différence avec les autres.
Quand a-t-il vécu dans la grotte ?
Alors ça, c'est des années... c'est au 19e siècle. Vous verrez, en allant vous promener, vous regarderez, il y a un petit panneau qui explique, et vous allez voir qu'il n'est pas mort très très vieux, hein, ce monsieur Farinet. Il était poursuivi pendant toute sa vie, et du coup, il est resté peut-être quelques temps dans cette grotte, ou en tout cas dans ces lieux-là.
Et dernière question, quand est-il né et mort ?
Alors je sais plus les dates exactes, ça doit être 1848, la date de sa mort, quelque chose comme ça, et donc il a dû mourir, il avait une 30aine d'années. Mais tu regarderas, en passant sur le panneau vers la cascade de Bérard, il y a sa photo, puisqu'il a été pris en photo, et puis on peut avoir sa date de naissance et sa date de décès.
D'accord.
Merci Xavier. Cela me fait penser à une chanson d'Ava que l'on va écouter tout de suite. Money, money, money.
I'm gonna roll.
J'espère que notre petit tour d'horizon à Valorcine vous aura donné envie de venir découvrir ou redécouvrir le Buet, la cascade de Bérard et la grotte Farinet.
Merci de votre écoute et à bientôt sur Globule Radio 90.5 FM.
C'était super de faire ce projet et voir comment marche une radio.
Merci Globule Radio. Réécoutez-nous sur le site globule.chamonix.radio.
Et un grand merci au TMR, c'est la partie suisse du Mont Blanc Express, de nous offrir les trajets en train.
Et pour dire au revoir, on écoute le reportage dans les entrepôts de TMR.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Alors bonjour, je m'appelle Jérémy. Je m'occupe de l'entretien et service de dépannage des trains de la vallée du Trien. Et on est actuellement à Vernaya dans le dépôt, le vieux dépôt des trains, on va dire de la génération que vous n'avez pas connue. Ici, on fait l'entretien de tous les trains de A à Z. Donc on fait le démontage complet, l'entretien, et on conduit aussi accessoirement des fois les trains.
Oui, moi j'en ai une, mais c'est juste une question. En quelle année il a été créé ce dépôt ?
Disons que la ligne de train, elle a été construite dans les années 1907, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, à peu près depuis cette date-là, le dépôt existe. Alors, les trains ont un petit peu changé depuis, c'est normal. Mais la ligne, c'est encore la ligne d'origine. Voilà, il y a juste un petit bout dans la ville de Martigny qui a été supprimé depuis le début. Elle a été enlevée, je ne sais plus dans quelles années ça a été fait, mais elle a été supprimée, le petit bout qui va depuis le centre de Martigny jusqu'à la gare de Martigny.
Et maintenant, on va vous laisser nous expliquer. Et voilà.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Le train qui va rentrer, c'est un train qu'on utilise pour les travaux. C'est un train un tout petit peu particulier parce que c'est une vieille machine comme celle-ci qui a l'électricité pour pouvoir faire avancer le train, mais qui a aussi la possibilité d'avancer avec un moteur diesel. Donc on a modifié la machine pour mettre un gros moteur diesel à l'intérieur pour pouvoir rentrer pour pouvoir faire aller la machine sans électricité.
D'accord. Et ce qu'il est très grand, ce train ?
Ça dépend ce qu'on appelle grand. Alors c'est pas aussi grand que les trains en plaine, on est d'accord. Mais par contre, il est très lourd. Ça oui, il est beaucoup plus lourd que les trains qui sont en plaine de la même taille.
D'accord. Bonjour. June, bonjour. Et il y a de l'huile par terre et du coup, il faut éviter de glisser. Alors, nous voici dans l'endroit VIP. Il est très confortable.
Voilà, alors maintenant, là, on se trouve dans la voiture salon. C'est un wagon qu'on a modifié pour mettre les sièges, comme vous le voyez là, donc en mode salon, qu'on utilise essentiellement pour... Si vous louez un train, par exemple, si vous faites une sortie de famille ou une sortie, je sais pas, de travail ou d'école et vous voulez louer un train et faire un trajet particulier, on va utiliser ce wagon-là qui est plus confortable et plus joli pour la visite de la ligne. Par exemple, une émission radio. Après, pour tout ce qui est... Alors parce que ça coûte déjà assez cher et qu'au final le train là ne peut pas aller en France, hein, donc il fait que la partie suisse, il est plus homologué pour la partie française parce que les normes ont changé et du coup il est plus du tout homologué pour la partie française. Il y a que les nouveaux trains qui vont sur la France.
Non.
Avec celui-là on peut pas aller à Valorcine, on peut aller jusqu'à Châtelard frontière. Et après, on peut aller à Valorcine avec un autre train. Oui, c'est moi qui suis censé te poser cette question si Valorcine, c'est en France.
C'est en France, je présume.
C'est juste.
Et ce train vient du 20 août 1558. 56. C'est très joli ici. On a des canapés rouges et de jolies tables.
Bravo, monsieur le train !
Nous voici à l'avant du train, il y a beaucoup de boudons qu'on a très envie d'appuyer dessus, mais nous ne pouvons pas. Alors maintenant, nous allons retourner dans la zone VIP et il y a un volant très beau.
Ici, la partie dans laquelle on était, c'était un wagon. D'accord, il n'y a pas de moteur. Et dans la partie là, il y a un moteur, d'accord ? Donc la partie dans laquelle on était, on ne peut pas se déplacer que dans la partie là. C'est toujours poussé par un véhicule moteur. Et du coup, le véhicule moteur, c'est celui-là qui est croché sur le wagon dans lequel on était.
Maintenant, on va aller voir les gros trains.
On est en train de refaire complètement un train, toute la peinture, les fenêtres.
Oh, tu vas faire fou !
Ça fait déjà quelques semaines qu'il est arrêté et qu'ils sont en train de travailler dessus pour refaire toute la peinture du train là. Et ça, ce train là, il va en France. Donc c'est le même qui va chez vous, de votre côté. Sachant que normalement, ce type de rame va être remplacé d'ici 2026.
Maintenant, nous allons aller sous le train. Il ne faut pas trop déranger ce train parce que apparemment, il y a des personnes qui travaillent. Voici sous le train. Il y a beaucoup de câbles et de choses comme ça. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup aussi de câbles et de choses. Sur ma gauche, il y a un truc électrique.
Ici, sur le train de montagne, c'est un petit peu particulier. On a les roues qui s'appuient sur les rails, on est d'accord. Et au milieu, on a une grosse roue dentée qui permet de monter en crémaillère jusqu'à Salvan. Cette partie-là, elle est utilisée que entre Vernaya et Salvan. Tout le reste de la ligne, parce que tout le reste de la ligne, c'est que sur les rails.
Comment on freine ?
Alors, il y a différents types de freins sur un train. Il y a déjà le frein électrique, comme un peu comme une voiture électrique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Quand on lâche les gaz, le moteur fait freiner le train, simplement. Ça, c'est purement électrique. Après, mécaniquement, on a différents types de freins. On a les freins ici qui permettent de freiner le train en crémaillère. Donc là, c'est des freins super forts, super puissants qui permettent d'arrêter le train en quelques secondes. C'est vraiment très, très efficace. Ensuite, on a un autre type de frein qui permet de freiner le train quand il est que sur les rails, donc quand il n'y a pas la crémaillère. Et là, c'est les freins qu'on voit sur les côtés ici qui appuient directement sur les roues, comme les vélos, exactement. Et ensuite, on a encore un autre type de frein. C'est les freins magnétiques qui permettent que quand les roues glissent un petit peu, le frein ici, il vient s'appuyer sur le rail et il freine le train.
Alors c'est pour ça qu'on entend ce bruit où ça fait...
Alors c'est surtout sur les vieux trains, parce que les vieux trains, on avait des semelles un poil différentes de matière, et du coup ça a tendance à siffler quand on freinait. Mais ça c'est ce type de frein. Les freins qui se posent sur le rail, c'est un frein qui est très peu utilisé. C'est vraiment que en cas d'urgence, ou si vraiment le train commence à glisser, on va utiliser ces freins-là, mais c'est très rarement utilisé.
D'accord.
Et encore une particularité ici, c'est que normalement le train, on est d'accord, il prend l'électricité sur le toit où il y a la ligne. Alors ici, on a une petite particularité, vu que les tunnels sont trop petits, on ne peut pas avoir la ligne partout, d'accord. Donc on a un troisième rail, je ne sais pas si vous avez pu voir dans le train quand vous êtes descendu, il y a les deux rails où le train roule, et sur le côté, il y a un rail supplémentaire. Et sur toute la ligne.
Il n'est pas entre les deux par hasard ?
Non, il n'est pas entre les deux, il est sur le côté.
Oui, il est entre les deux.
Possible dans certains trains, mais pas celui-là. Celui-là, c'est que sur le côté. Non, alors c'est un rail électrique, d'accord. Faut surtout pas toucher. Il y a passé 1000 volts dedans dans ce rail. Donc ne vous amusez jamais à aller toucher ou vous approcher de ce rail. Surtout que du côté français, le troisième rail est sur toute la longueur de la ligne, depuis la frontière avec la Suisse jusqu'à Saint-Gervais. C'est que alimenté par le troisième rail. D'accord.
Oui. Là, justement, ce troisième rail, je me suis demandé ce que c'était. J'avais pas percuté que c'était ça. Il est pas protégé ?
Exactement. Alors sur le côté français, en gare, dans toutes les gares, il est protégé avec un cache en plastique, mais ça empêche jamais d'aller toucher dessus. On peut toujours toucher. Disons qu'on peut aller mettre la main dedans, mais surtout pas faire, parce que vous pouvez mourir. D'accord. Côté suisse, on n'a pas, parce qu'on n'a pas dans les gares. C'est que uniquement en pleine nature, donc on le protège pas. Sachant que les animaux, ils se font très rarement électrocuter parce qu'ils sentent l'électricité. C'est assez particulier. Et pour ça, on a ce qu'on appelle les frotteurs, qu'on voit ici. C'est la partie qui vient prendre l'électricité sur le troisième rail. À la place d'avoir sur le toit, on les a sur les côtés. On a aussi, bien sûr, sur le toit, parce qu'il y a des endroits où il y a sur le toit la ligne, le fil électrique.
D'accord.
La partie ici, c'est le même principe. Il y a aussi tous les freins qu'on a vus avant. Mais en plus, il y a deux moteurs qui permettent de faire avancer tout le train. Et on a deux moteurs ici et deux moteurs sur celui d'après.
D'accord. Apparemment, ça s'appelle un bogie. Là, il y a 8 wagons de chaque côté. Nous voici dans un autre train. Les sièges sont très colorés et c'est très joli. Les sièges sont très confortables et... Il y a même une petite poubelle. C'est vraiment très joli.
Alors là, on est dans la machine, la même machine qu'on a vue là-bas qui était en train de se refaire repeindre. C'est une Z800 qui sont des années 94-95, d'accord, et qui vont être d'ici 2026, ne seront plus en service. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas le plancher rabaissé et les personnes qui sont en fauteuil roulant, ils ont de la peine à rentrer dans le train. Et du coup, c'est plus homologué actuellement. On a des dérogations pour pouvoir les faire rouler jusqu'au prochain matériel. Oui.
Juste là, on a des trucs accrochés. Ça sert à quoi ?
Alors, c'est C'est pour changer les appuis-têtes. Par exemple, s'il y a une personne qui a les cheveux rouges et puis que ça déteint ici, on n'a peut-être pas envie derrière d'avoir aussi les cheveux rouges. Alors du coup, on change pour le nettoyage. C'est plus rapide pour nettoyer. Et si jamais il y a des poux, par exemple.
Maintenant, nous allons voir la cabine. Comme dans l'autre cabine, il y a beaucoup de boutons, sauf que cette fois, ça a l'air beaucoup plus grand et plus neuf. Et il y a le truc pour faire tu-tu-tu. Et le siège a des rayures blanches. Et il y a une vraiment très grande fenêtre. Et par contre, sur lui, il n'y a pas de volant. Et il y a un autre petit siège. Maintenant, nous allons voir l'autre cabine pour voir si c'est la même ou pas.
Ah bah apparemment, c'est la même.
Nous sommes près d'un train.
Nous allons redescendre pour refaire la visite.
Nous, là, on a 5 trains de l'ancienne génération et 2 nouveaux trains, plus encore tous les vieux qu'on a vus avant, qu'on compte pas, parce qu'on en a beaucoup.
Est-ce qu'on peut rester dessous pendant que le train il est en marche ?
Non, alors ça ne passe pas sur la voie normale. Après, ici, vu qu'on a les trous sous les trains, on peut rester dessous pendant que le train il roule, pour faire des contrôles. Mais sur la voie normale, ça passe pas. Donc ça sert à rien d'essayer de vous coucher et puis de faire passer le train, ça passera pas.
Mais je crois que le train avance.
Là, c'est ce qu'on appelle un tour en fosse. Donc on est d'accord, c'est comme une voiture. Au bout d'un moment, les roues, elles s'usent sur un train. Et pour les refaire à neuf, on va simplement tourner le bogie, ce qu'on voit ici. C'est la même partie qu'on a vue dessous. Je vous ai expliqué où il y a tous les freins. Ça, c'est pour une autre compagnie qu'on le fait. Et du coup, on fait tourner les roues et avec un petit burin, une petite pièce, on vient enlever de la matière pour les rendre de nouveau rondes et bien propres. Et on peut voir là, les roues, elles sont toutes brillantes, toutes propres. On appelle ça un reprofilage. Donc on enlève tous les petits plats, toutes les traces d'usure de la roue.
Et c'est quoi ce qui est en bas là ?
Ça, c'est les copeaux, c'est les restes de roues qui restent.
Ah d'accord.
Vous les utilisez pour quoi ?
Ils vont à la poubelle après.
Il va mettre en route ce qu'on va voir. Attention. On voit aussi un lavage pour laver le train. Et un train va bientôt arriver pour aller. On voit beaucoup de choses. On va entendre. Et nous allons demander à une personne au choix comment il a rendu cette visite à la fin. Attention, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend un petit bruit. Là, nous allons repartir. On va juste venir.
Là, c'est le sifflet du train, d'accord ? Je vous ai demandé de boucher les oreilles parce que ça siffle vraiment très fort. C'est une particularité de nouveau française. C'est une exigence de la part des Français d'avoir un sifflet 2 tons. En Suisse, les vieux trains, comme on a vu avant, ils ont juste un petit sifflet comme on entendait à l'époque.
Bah, la France, ils ont beaucoup d'exigences comparé à ici.
Oui, exactement. Et c'est ils ont un peu plus d'exigences. Et surtout, pas aux mêmes endroits. Ils ont beaucoup de choses qui sont sécuritaires, que nous, on a un peu moins ce côté sécuritaire. Mais ça fonctionne aussi très bien.
Ça sert à quoi, le bidule avec la balle de tennis ?
Alors, la petite balle de tennis qu'on voit sur le pare-brise devant, ça permet de pouvoir s'arrêter avec le train. Quand on conduit le train, on s'arrête quand la balle de tennis elle touche la vitre. Comme ça, on sait qu'on a les portes au bon endroit pour pouvoir sortir du train. Sinon, c'est un petit peu haut de l'autre côté pour sortir.
Mais c'est une question. Ça sert à quoi, les 2 trucs à l'avant ?
Alors, ça s'appelle des tampons. Ça permet si on a un gros choc avec un véhicule, ça permet d'absorber l'énergie. Un peu comme un pare-choc d'une voiture.
Ça fait quand même vibrer l'avant.
Alors en principe, on essaye de jamais essayer, un peu comme une voiture. On essaye de pas faire d'accident. Donc on sait pas ce que ça fait. Mais c'est censé s'enfoncer comme un pare-choc. Mais on le fait jamais, hein, parce que sinon ça ferait...
Ça devrait pas, parce que ça s'enfonce, mais après ça touche. Et donc ça fait peut-être un petit choc à l'avant.
Alors non, quand on accroche les machines, où il y a la petite bâche rouge qu'on voit, on n'accroche que là-dessus. Les tampons sur les côtés, c'est vraiment fait si on arrive à fond sur une voiture. Exactement.
Du coup, s'il n'y aurait pas ça, et ben si on se fonce dedans, il y aura peut-être des blessés très graves à cause du choc.
Voilà, exactement. Mais même avec ça, il y a souvent des blessés si on fait un choc. C'est pour ça qu'il y a très rarement des chocs avec les trains. Heureusement.
Si l'avant, il s'enfoncerait complètement à l'intérieur de soi-même. Tu vois, il y a une partie qui ressort un peu. Ben, ça s'enfoncerait à l'intérieur de soi-même.
Alors voilà, c'est prévu, ouais, exactement.
Non, tu le laisses encore. Faut qu'on reste tout le temps, en fait.
On va aller dehors. Nous allons aller dehors. Et on va avoir plusieurs questions. Lucie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit, cette petite visite ?
Bah, j'ai vraiment très bien aimé. C'était bien expliqué. Et j'ai bien aimé voir l'en dessous des trains. Et voilà, c'était très bien. Merci.
Vous êtes toujours sur Globule Radio et vous avez entendu ce matin les voix des CM2 de l'école Jeanne d'Arc en direct de la cour de l'école. Ils ont été au top, nos petits journalistes en herbe. Donc c'est la fin de cette émission et réécoutez-les sur globule.chamonix.radio.